Ils n'ont pas la langue de bois. Pierre-Louis Ballon, il a 27 ans, il est humoriste. Laurent Serveur, chef d'entreprise. Gabriel Dahan, huissier. Florian Pageot, il est enseignant. Cher Laurent Serveur.
Tu sais que ça fait 15 ans que tu dis serveur alors que c'est serveur. Mais bon, c'est pas très grave. Il y en a qui t'en veux pas. Mais VER, c'est ver.
Oui.
Si c'était VER, ça ferait ver. Mais comme c'est sarver, VER, ça fait sarver. Mais bon, je t'en veux pas.
J'ai des défauts d'élocution. J'allais voir une orthophoniste.
Bon, alors moi, je suis pas venu avec vraiment un sujet à la base. J'ai rien préparé parce que tu m'as dit on y va freestyle. Donc, je suis arrivé à freestyle. Alors, l'actualité, moi, qui suis un peu plus dans le digital ou la techno, on va dire, hein, même si voilà, il y a d'autres sujets qui m'intéressent, mais l'actualité, c'est plutôt la déflagration de la plateforme FTX qui s'est planté, enfin qui a entre guillemets déposé le bilan, en tout cas qui est en banqueroute depuis quelques jours. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est une plateforme d'échange ou en tout cas une plateforme effectivement où beaucoup de gens ont déposé beaucoup de crypto-monnaies, des bitcoins, de l'Ethereum et beaucoup de choses comme ça. C'est une boîte américaine, c'est un mec qui s'appelle SBH qui a développé cette boîte, donc milliardaire en deux ans, archi-milliardaire en deux ans. Et ça rappelle l'affaire Madoff, puisqu'effectivement, sa valorisation était de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et du jour au lendemain, on s'aperçoit qu'il manque 10, 15 milliards dans les caisses. Donc là, effectivement, c'est un petit peu le séisme dans l'écosystème blockchain, puisque ce sont des milliers de retraités américains, mais pas que, qui a mis beaucoup d'économies en fait là-dedans. Il y a aussi des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de monde qui a mis des milliards hein, dans cette boîte. Et du jour au lendemain, on s'aperçoit que finalement, rien n'a été géré comme il fallait. Et donc, séisme total. La boîte s'est cassée la figure. C'était la deuxième plateforme d'échange et de gestion de crypto-monnaie. Et donc, évidemment, alors, on n'en est qu'au début de cette technologie-là, du Bitcoin, de la blockchain, qui aura probablement un avenir intéressant. Mais en attendant, ça crée réellement un séisme. Ça met un point d'arrêt un petit peu aujourd'hui à cette techno. On revient deux ans en arrière. Et on verra si effectivement le type était soit un très 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 mauvais gestionnaire, parce qu'il manque quand même plus de 10 ou 15 milliards dans les caisses, soit un très mauvais gestionnaire, soit un utopiste, parce qu'il a quand même dépensé beaucoup d'argent pour tous ses cadres supérieurs qui ont tous des sublimes maisons dans les Bahamas. Il y a eu 200 millions de dollars, je crois, de dépensés pour ses cadres, pour qu'ils achètent des petites maisons sympathiques dans les Bahamas, pour être quand même confort pour travailler. Donc c'est dans un univers un petit peu particulier, mais si tu veux, c'est quand même une vraie affaire qui remet en cause beaucoup voilà cet écosystème crypto.
Il y a deux conclusions. Est-ce qu'il faut en déduire que l'écosystème crypto est menacé, ou est-ce qu'il faut en déduire que ça va davantage renforcer l'Ethereum et le Bitcoin, les deux leaders?
En fait, tout s'est cassé la figure en même temps. C'est-à-dire que t'as deux choses. T'as ces plateformes qui sont des plateformes de stockage, d'échange, etc., de crypto-monnaie au sens large. Donc là, c'était la deuxième mondiale. Donc effectivement, ça a eu un impact financier. C'est comme effectivement tous les fonds de pension qui s'étaient cassé la figure, ou les gens qui ont mis leur économie là-dedans. Et puis, t'as le fondamental, c'est la technologie crypto en elle-même, avec la blockchain. Et ça, on n'en est qu'au début. C'est un petit peu comme au début de l'ère Internet, où, voilà, il y a plein de services qui vont se développer. Donc on est au tout début. Donc ça, c'est pas remis en cause. En revanche, aujourd'hui, les gens qui contribuaient de façon assez spéculative sur ces monnaies-là, c'est clair que ça les a calmés pour un moment. Donc on pense que là, il y a au moins 6 mois, 1 an où ça va ralentir beaucoup les projets. Sur le fond, personnellement, je pense que ça ne va pas mettre un terme à cette technologie-là. Mais effectivement, à très court terme, ça a décrédibilisé. Et la confiance est perdue auprès de tous ces jeunes.
Est-ce qu'à l'origine, l'émergence de ces plateformes-là n'était pas à cause d'un manque de confiance dans les systèmes étatiques? Et ce qui fait qu'il y a eu un refuge qui a été fait vers ces crypto-monnaies? Et est-ce que la chute de ce système, de cette crypto-monnaie dont tu parles, ne risque pas d'entacher et d'entraîner une contagion vers les systèmes des banques centrales européenne, américaine ou de certains États? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas arriver avec des banques centrales où on arrive comme dans certains pays où les déposants ne pourront plus retirer leur argent? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas...
Retirer son argent, on a eu la crise des subprimes avec les banques
américaines. Est-ce que ce n'est pas précurseur de ce qui pourrait éventuellement atteindre les banques centrales un jour ?
Bon, là-dessus, je pense pas qu'on arrivera à ce stade-là, mais c'est clair qu'effectivement, à la base, c'est un projet, la crypto, la blockchain, qui a été développé finalement complètement décentralisé. C'est le principe même, c'est de la décentralisation justement pour pas être tributaire des banques centrales.
C'est s'émanciper
des banques. Donc effectivement, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la technologie blockchain, qui est une technologie intéressante, décentralisée et très sécurisée, qui est très transparente, très transparente parce que finalement on a une traçabilité finalement des transactions et elle est très 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 sécurisée parce qu'elle n'est pas centralisée justement, donc elle est sur des milliers d'ordinateurs qui font que l'information ne peut pas être périmée ou altérée. Donc ça, c'est la techno. Et ensuite, effectivement, il y a les monnaies. Aujourd'hui, il y a le Bitcoin, Ethereum, mais il y en a des centaines de monnaies. Tu peux demain créer une monnaie pour la boule. On peut créer le token pour payer nos commerçants à la boule, si on voulait.
Il va nous le faire. Il va le faire.
On pourrait. Si demain, on avait un porte-monnaie, tous les commerçants auraient leur petit wallet, comme on dit, et puis tu achètes ta baguette, tu vas au restaurant, tu payes dans la monnaie la boule token, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc voilà, donc il faut distinguer les deux. Et là, ce qui s'est passé, effectivement, c'est le problème d'une boîte privée qui a été ultra mal gérée. A été valorisé des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Le mec n'avait même pas un comptable en interne. Il n'y avait aucune gestion de la trésorerie. Bon, enfin, voilà,
dans ces cas-là, ce serait rassurant. C'est qu'en fait, c'est ce bonhomme-là qui a planté la boîte, mais que le système des bitcoins reste fiable. Ça veut dire que finalement, la confiance... Il reste quand même une défiance vis-à-vis des banques centrales qui vont continuer à encourager les gens à aller vers des monnaies parallèles.
Oui, alors à côté de ça, t'as toutes les banques et t'as tous les États surtout qui veulent mettre la main dessus, évidemment, veulent évidemment surtout pas que ça parte et que ça leur échappe. Voilà, Christine Lagarde, elle pousse à fond pour qu'il y ait une deuxième réglementation au niveau des cryptos en Europe. Donc il y a déjà eu une première réglementation au niveau de l'Europe sur les crypto-monnaies. Elle veut renforcer ça, qu'il y ait à nouveau un système encore plus élaboré pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir maîtriser et faire en sorte qu'il n'y ait pas des abus, parce que c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi. Donc voilà, mais
c'est ce qui renforce la théorie que tout ce qui est public est vertueux et tout ce qui est privé est suspicieux.
Je voudrais poser une question à Gabriel Dahan. Est-ce qu'un huissier de justice peut faire une saisie arrêt sur des crypto-monnaies ?
Alors, on peut tout saisir, à condition... on peut tout saisir. Vous avez des saisies de biens incorporels, vous avez des saisies de biens corporels et vous avez des saisies de valeurs mobilières. La saisie des valeurs mobilières, c'est une saisie de droit incorporel à partir du moment où on est dans la crypto-monnaie qui est quelque chose qui est virtuel. Tu peux faire une saisie des droits incorporels.
Ouais, ça me paraît super compliqué, parce que déjà, pour accéder à ton portefeuille, il y a des clés et il y a des mots de passe qui sont, qu'un tiers ne peut pas, en principe, avoir.
Tout à fait, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, que lorsqu'on fait une saisie attribution ou une saisie conservatoire dans une banque, le commissaire de justice lève le secret bancaire pour obtenir les renseignements.
Il n'y a pas de secret bancaire, là.
Voilà.
C'est ça le problème. C'est qu'en fait, en gros...
Ça veut dire qu'une personne peut se mettre en état de faillite, dire « j'ai pas d'argent, je suis ruiné » et avoir des millions d'euros Bitcoin.
C'est comme lorsque quelqu'un divorce.
C'est pour ça que ça gêne les banques et les gouvernements. C'est que ça échappe totalement aujourd'hui.
C'est comme l'entrepreneur qui se met en séparation de biens, qui donne tout son argent à son épouse et qui divorce. Bah, il se retrouve comme le petit Jésus sur la paille. Hein.
Mais il n'y a pas les rois mages pour
c'est ça. C'est ça.
Donc là-dessus, je vais pas dans le sens, Gérard, sur cette partie effectivement saisie, parce que pour moi, d'un point de vue technique, pratique, c'est impossible. Parce qu'effectivement, ton portefeuille virtuel, il est placé à un endroit où, d'ailleurs, il est décentralisé.
L'État français même ne peut pas accéder, ne peut même pas le savoir.
Voilà. Donc aujourd'hui, tu es censé, de toute façon, comme toute ouverture de banque à l'étranger, déclarer que si tu as un compte en Suisse ou au Luxembourg, évidemment, il faut le déclarer. Si tu as un wallet chez un fournisseur, quelle que soit sa nationalité, tu es censé aussi le déclarer pour les plus-values.
C'est censé être... On n'est pas obligé de le déclarer. Il est interdit de se faire prendre.
Oui, voilà, on peut voir ça comme ça. Ouais. Mais par contre, sur les plus-values, les plus-values, si tu vends ton bitcoin avec une plus-value,
ce qui est pas le cas aujourd'hui. Il faut justifier d'où l'argent vient.
Voilà, tu es censé payer dans ton pays la flat tax comme partout.
Il y a 1500 euros qui arrivent sur ton compte ou 1000 balles, la banque te demande est-ce que vous avez reçu cet argent.
Ouais, tout à fait.
Moi, je préfère acheter de l'or et de l'argent, voilà, c'est plus sûr.
Bah, tu es déjà taxé d'office à, je ne sais pas, 17% je crois, pour les achats de... Donc, tu es déjà taxé au départ. Donc, de toute façon, le jour où l'État y trouvera son compte, ne t'inquiète pas.
Oui, ça, je n'en doute pas. Mais en cas d'effondrement, ça peut servir.
Exactement. C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que... oui, en fait, c'est ça. Les banques n'ont pas la main dessus. Et puis, aujourd'hui, par exemple, il y a des banques où quand on demande une certaine somme, si on veut retirer 5000 euros, la banque le refuse. Oui, mais pourquoi vous voudriez retirer 5000 euros? Mais attends, mais les 5000 euros, c'est...
C'est Tracfin qui oblige à...
Non, mais les 5000 euros, ils sont à moi ou... Ah oui, ils sont à vous, mais quand même... non, en fait, c'est à moi, donc je vais peut-être les récupérer. Et en fait, avec ce système-là, oui, les banques n'ont plus leur mot à dire. Ça les embête. De toute façon, c'est un aspect de liberté, un énième qu'on essaye de créer. Donc, de toute façon, l'État va essayer de mettre la main dessus d'une manière ou d'une autre.
Mais c'est intéressant de voir que... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais non, mais je pensais en même temps à la Russie et au e-rouble, qui est un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'est dit on coupe toutes les vannes à Poutine, les CEPA, les machins, etc., ils avaient déjà dans leur tuyau depuis un moment le fait de créer finalement un rouble, mais virtuel, entre guillemets, enfin un e-rouble, effectivement, qui pourrait remplacer et qui permettrait finalement d'avoir des échanges hors système bancaire classique.
Et c'est ce qui fait que l'économie russe s'est sortie.
Sûrement en partie, si ce n'est qu'effectivement, ils encaissent des tonnes d'argent, je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars par jour avec le pétrole et le gaz.
Oui, c'est les Indiens qui achètent du pétrole à prix cassé et qui réalimentent les caisses russes, je suppose.
Les Chinois aussi,
c'est ça. Alors, la question que finalement j'ai envie de vous poser à tous, on va faire un tour de table. Est-ce que vous avez encore confiance dans les crypto-monnaies? Peut-être que certains d'entre vous n'y sont jamais allés. Est-ce que vous auriez confiance, malgré l'épisode de la faillite FTX, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est pas STX, parce que là, ça va affoler les gens.
Non, c'est pas STX, c'est FTX.
FTX. Il faut savoir prononcer, voilà, prendre des cours. La faillite de FTX, est-ce que vous auriez peut-être un jour confiance toujours dans les crypto-monnaies? Pierre-Louis?
Alors,
toi, t'es jeune en plus.
Oui, c'est vrai, mais pour le coup, effectivement.
Donc, il n'a pas encore de sous.
Oui, c'est ça aussi.
C'est ça.
Il n'a pas les moyens d'en perdre.
C'est ça, c'est l'avantage. Non, mais pour le coup, je m'y intéresse, mais plus de manière théorique. Je ne suis pas rentré encore dans la pratique, mais certains m'en parlent, me disent que c'est bénéfique. Je suis encore dans la période de doute. Je sais pas, le fait que ce soit encore indépendant et que ce soit encore un peu neuf, je me dis qu'il y a certainement des magouilles derrière et j'ai pas encore totalement confiance. Je reste encore derrière l'État, même si certaines choses ne me conviennent pas, je parlais des banques. Donc je vais vous répondre non pour le moment, pour les blockchains, mais quand on aura plus d'électricité, ce qui sera peut-être pas trop tard.
C'est ça.
C'est ça le problème.
Gabriel. Moi, je te dis, les générateurs mazout, c'est l'avenir. Alors, moi, quand on parle de confiance, j'ai tendance à reprendre le proverbe africain. Proverbe ivoirien, je pense, qui disait « La confiance existerait, l'eau ne cuirait pas le poisson ». Donc, confiance dans les banques, on n'a pas le choix. Confiance dans les crypto-monnaies et aller s'aventurer sur des sujets que je ne connais pas. Méfiance avec un grand M. Sauf si Laurent arrive à me persuader avec ses connaissances digitales que c'est l'avenir. Je suis toujours ouvert à un expert.
Alors, moi, c'est un sujet qui m'échappe. Donc voilà, je préfère les pièces d'or et d'argent en cas d'effondrement. C'est plus simple et plus pratique.
Laurent. Comme je suis le dernier, à chaque fois, je suis le Normand. Donc je fais ni oui ni non, ou en tout cas, voilà. Non, c'est pareil, tu ne peux pas généraliser sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment situer. Rappelons-nous le début de l'Internet, où tu disais à quoi ça sert. On a le Minitel en France, l'Internet c'est lent, ça sert à rien, etc. Et on voit ce que ça a donné 10-15 ans après. Et en réalité, encore une fois, pourquoi on se dit ça? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usage. C'est-à-dire que si tu veux avoir ton porte-monnaie en crypto, c'est compliqué. Ça ne s'ouvre pas en deux minutes, donc c'est compliqué, c'est technique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculation, parce qu'il y a eu des tonnes d'argent, des jeunes de 20 ans qui sont devenus milliardaires en spéculant sur tout ça. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Il ne faut pas oublier qu'au début, c'était surtout utilisé dans le darknet, donc par les trafiquants pour s'acheter des armes, de la drogue, tout ce que tu veux. Mais il va y avoir une maturité de ce marché-là, une maturité de la techno qui va progresser. Donc moi, je dis, on se reparle dans 5 ou 10 ans et on verra qu'effectivement, on aura probablement des usages beaucoup plus développés qu'aujourd'hui. Voilà, donc il ne faut pas tout mettre à la poubelle, mais il faut être prudent. Et en termes d'investissement, tout le monde te dit que, de toute façon, mettre plus de 5% de ton patrimoine ou de ce que tu peux placer, ce serait risqué. Donc voilà, au pire, tu mets 5% de ce que tu peux économiser dans des crypto-monnaies, et après, tu fermes les yeux pendant 10 ans et tu vois ce qui se passe.
C'est ça.
Et on marque une pause, et vous êtes sur Care News, et vous êtes avec les experts.